Bonjour, je suis Aurélie David, psychopraticienne et artiste. Je voulais vous parler de la dyslexie vue de l'intérieur. En effet, je suis dyslexique, dyspraxique, dysorthographique et quand je suis épuisée, il peut m'arriver d'être dyslexique langagière. En effet, la dyslexie est souvent accompagnée de comorbidités. Les comorbidités, ce sont des problématiques qui sont liées à une problématique principale. Je vous propose ce podcast en deux parties. Cette première partie sera sur les symptômes et sur les conséquences. Et je vous réserve un petit bonus sur ce qui m'amuse dans ma dyslexie. La seconde partie sera plus liée à l'apprentissage. Qu'est-ce qui me facilite l'apprentissage et qu'est-ce qui le complique ? Puis on pourra faire un petit tour sur les différentes théories qui sont très très nombreuses et pour certaines totalement farfelues. Je vais vous parler maintenant un petit peu des symptômes, comment on peut reconnaître qu'il y a dyslexie. Donc il y a une confusion entre les lettres. Le B, le D, le P et le Q sont pour moi la même lettre. Donc on a beau me dire que c'est pas la même chose, je les retourne dans un sens, dans l'autre, et c'est exactement la même lettre, sauf qu'elle n'a pas le même sens. Elle n'est pas dans le même sens. Il y a une confusion entre les sons, c'est ce qui est le plus remarqué dans la dyslexie. Alors par exemple, j'ai encore du mal avec les Y, les I, on, les I, on, voilà. Donc du coup, je vais utiliser, grâce à l'orthophonie, des mots-outils qui vont permettre de m'appuyer sur ces mots-là pour trouver la bonne orthographe d'un mot. Alors, quant au ouvert ou au fermé, je n'entendrai jamais la différence. Se repérer dans une page a longtemps été pour moi très compliqué. C'est d'ailleurs mon premier souvenir. En CE2, j'étais face au tableau et je devais recopier sur ma feuille le texte. J'étais perdue. À chaque fois que je devais réécrire un nouveau mot sur ma feuille, je relisais le texte au tableau et je le relisais en entier depuis le départ parce que je ne savais pas où était le mot que je devais recopier. Et pareil, une fois que je regardais ma feuille, je ne savais plus du tout où j'en étais, je n'étais plus sûre du mot que j'avais en tête et ainsi de suite. Et la maîtresse nous avait gardé pendant la récré pour qu'on puisse, ceux qui n'avaient pas fini, qu'on puisse terminer et copier. Et j'ai cru que j'allais rester toute ma vie dans cette classe, face à ce tableau, à essayer d'écrire ce texte sans jamais y arriver. La confusion, ça c'est un concept très intéressant. C'est Ronald D. Davis qui l'a développé dans son livre « Le don de dyslexie ». Ronald D. Davis est dyslexique. Alors, en tant que dyslexique, il est compliqué d'avoir des images sur certains petits mots, comme le « des »,« un ». Et du coup, comme on n'a pas de représentation, ce petit mot va prendre énormément de place, va nous mettre dans une confusion. Et du coup, le reste du texte est compliqué à comprendre parce qu'on est resté focalisé sur ce mot que l'on ne comprend pas. Alors, je ne me souviens pas avoir eu ça par rapport à des mots simples comme le, la, un, des. Mais quand je ne comprends pas une phrase, par exemple, j'ai ouvert un livre et il y avait écrit « Ceci n'est rien moins que cela ». Et du coup, j'étais totalement perdue. Je ne savais pas si ceci était cela, si ceci était plus que cela, ceci était bien moins que cela, ou pas du tout cela, ou égal. Donc, j'ai refermé le livre. Donc, voilà. Donc, une phrase que l'on ne comprend pas capte tellement l'attention que tout le reste s'efface et qu'il est extrêmement compliqué d'avancer, d'aller au-delà de cette confusion. Qui amène aussi à une problématique de tri dans les perceptions. C'est-à-dire que quand j'étais à l'école et quand j'avais un instituteur, son état émotionnel était plus important que ce qu'il allait m'apprendre. L'énervement de mes petits copains à côté, une mouche, une étiquette qui me gratte le dos. Alors l'étiquette qui me gratte le dos, je dois être hyper sensible de la peau, mais là je peux ne penser à rien d'autre de la journée. Ça va prendre vraiment toute la place. Apparemment, nous aurions une perception du temps différente. J'ai acheté un livre sur le sujet, mais je ne l'ai pas encore terminé. Je ne l'ai pas remarqué personnellement. Alors, je ne sais pas si c'est jusqu'à un certain âge où la perception du temps prend plus de temps qu'avec d'autres enfants pour être comprise. Je ne l'ai pas personnellement remarqué. Autre symptôme, j'ai donné des cours de sculpture pendant 15 ans et j'ai pu reconnaître des élèves dyslexiques par leur capacité à voir et à ressentir le volume comme quelque chose de naturel, de simple. C'est un endroit vraiment très très fluide. Maintenant, j'aimerais vous parler des conséquences. C'est-à-dire qu'en fonction du milieu, de l'environnement que l'on a eu, enfant, on a pu développer certaines conséquences à notre dyslexie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est là au départ, mais c'est quelque chose qui se crée à cause de la dyslexie. La confiance en soi. J'ai rarement entendu des dyslexiques parler de leur dyslexie simplement. C'est souvent plutôt comme une excuse. Et quand quelqu'un dit « je suis dyslexique », il y a un poids, quelque chose de lourd, quelque chose de compliqué. Ma famille n'a jamais eu de doute sur mon intelligence. Du coup, je ne me suis pas sentie bête, enfin, pas tout le temps. Du coup, je n'ai pas trop de problèmes par rapport à ça, mais ça peut aller très très vite de se sentir bête à cause de la dyslexie. Il y a l'invisibilité. C'est pourquoi j'ai choisi de prendre la dyslexie pour ce premier podcast. C'est-à-dire que je vais éviter d'écrire des mails, je vais éviter d'écrire des textos, je vais éviter d'écrire sur Facebook. Sur mon site internet, je suis relue par deux personnes, en plus du super correcteur que j'ai sur mon ordinateur, et je sais qu'il reste des fautes. Les internautes sont souvent hyper durs avec les fautes d'orthographe, comme si on leur donnait une gifle. Et je pense ne pas être la seule dyslexique à vraiment avoir du mal à m'exprimer, à me faire entendre à l'écrit. Alors, quelque chose aussi de très surprenant, il y a beaucoup, beaucoup de livres sur la dyslexie et je n'ai pas vu de livres sur la dyslexie pour les dyslexiques. C'est-à-dire que même les gros ouvrages sur la dyslexie ne sont pas écrits pour les dyslexiques. La police de caractère n'est pas confortable à lire, l'interlignage est le même que sur un autre livre, il n'y a pas un résumé des différents points à la fin, il y a pas mal de charabia, ça part dans tous les sens, ça c'est normal, c'est inhérent à la dyslexie. Mais du coup, ça serait sympa d'écrire des livres sur la dyslexie pour les dyslexiques. C'est comme si on était à part. Voilà, c'est assez étrange. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'handicaps où c'est pas fait pour les personnes qui le vivent. C'est juste fait pour expliquer aux autres à peu près ce que c'est, pour les aider à rentrer dans la norme et à faire comme les autres. Alors, dans les conséquences, je souhaitais vous parler de la dissociation. La dissociation, c'est ce qui se passe quand il y a un traumatisme. Un traumatisme, c'est un moment où on ne sait pas si on va survivre. Une partie de soi se détache, se coupe émotionnellement. Notre corps est là, mais juste notre corps. Alors moi, j'ai une super compétence pour utiliser la dissociation. Je pense que je l'ai utilisée durant toute ma scolarité. Le problème de la dissociation, c'est que ce n'est pas très facile après de se réassocier. Lors d'une formation qui a duré 2 ans, où je n'étais pas d'accord avec les concepts de la formatrice, ni avec les exercices, ni avec rien du tout. Je me suis sentie me réassocier à la fin de la formation quand j'ai dit au revoir aux autres participants. Quelque chose s'est réancré, réaligné en moi. Et du coup, ça m'a fait comprendre à quel point je me dissociais, parce que quand on se dissocie, on ne s'en rend pas compte. Je ne sais pas si les autres dyslexiques utilisent cette dissociation pour rendre supportable l'école, le travail ou autre. Je dirais aussi que la dyslexie, ça peut être comme un enchaînement de mini-traumas. Les moqueries, les humiliations, les réflexions. On pourrait avoir l'impression que ça passe sur la personne dyslexique parce qu'elle en reçoit tellement. Et en même temps, elle reste. Dans ces petits traumas que j'ai, par exemple, quand quelqu'un et derrière moi, et regarde ce que je fais, je m'arrête de respirer, je m'arrête de bouger, je me fige. Donc ça, le figement, c'est quand on est face à un grand danger. Et du coup, être observé comme ça de l'extérieur est totalement insupportable. Encore maintenant. La persévérance. Les parents d'enfants dyslexiques se demandent souvent à quel moment leur enfant fait des efforts, à quel moment il est feignant, à quel moment il utilise son handicap pour ne pas faire d'efforts. Cette année, mon fils a commencé à apprendre à lire. Donc, il a lu le son L et le son E. Et en 3-4 fois, il a compris que L, E, ça faisait le. Donc, il a associé ces deux lettres pour le son. Et à ce moment-là, moi, j'avais cru toute ma vie que j'avais fait 10 fois plus d'efforts que les autres pour apprendre à lire. Et bien là, je me suis rendu compte que j'avais fait 80 fois plus d'efforts que mon fils pour apprendre chaque son. Donc, votre enfant n'est pas feignant. Il fait énormément d'efforts. Il fait tout le temps des efforts. Et il y a des moments où peut-être qu'il est à la limite du burn-out. Et s'il ne veut plus faire d'efforts, c'est bien compréhensible. Il en a fait plus que les autres personnes n'en feront jamais dans leur vie. Ça m'émeut énormément de parler de ses efforts. Parce que ça m'est souvent arrivé, comme j'ai fait beaucoup d'orthophonie et que j'étais bien rééduquée, que certaines personnes ne comprennent pas, me disent « Oui, mais tu fais pas assez de fautes finalement pour être dyslexique. C'est plus de la dyslexie, là, c'est juste de l'inattention. » Oui, eh bien, l'attention que me demande le fait de me concentrer sur une feuille pour ne pas faire de fautes d'orthographe me demande tellement de concentration que j'en développe des migraines. Donc, je peux écrire 5, 6, 10 lignes sans trop de fautes. Et après, ça va être un feu d'artifice. Je vais écrire le même mot avec 3-4 fautes, de 3-4 manières différentes. Cette persévérance est pour moi un point vraiment positif. J'ai réussi à apprendre à lire. Du coup, je suis capable de tout réussir. Je peux déplacer des montagnes. Enfin, rien ne me semble trop compliqué. Dans les conséquences de la dyslexie, il y a aussi la capacité à faire des erreurs, à se tromper. C'est quelque chose qu'on me renvoie assez facilement, que finalement je trompe et je change de chemin. Ça ne me pose pas de problème. C'est quelque chose de simple et de fluide. Du coup, ça permet de ne pas rester collé trop longtemps sur une idée qui ne serait pas tout à fait la bonne. Autre point, je ne suis pas sûre que cela fasse partie des conséquences, mais plutôt des symptômes ou des comorbidités. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le multipotentiel et j'ai l'impression que plusieurs de mes connaissances dyslexiques sont totalement multipotentielles. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous êtes dyslexique pour me dire si vous êtes aussi multipotentiel ou pas. Si pour vous, ça peut avoir un rapport avec une vision qui part dans plein de sens différents. Mon petit bonus. Alors, ce que j'apprécie vraiment dans ma dyslexie, c'est que quand je suis face à une affiche et que je lis rapidement, je lis rarement ce qui est écrit. Et c'est souvent très drôle ce que je lis. Et par exemple, quand je suis dans le métro et que je regarde les affiches, je me dis souvent « Oh non, ils n'ont pas osé ». Et non, ils n'ont jamais osé. Donc ça peut être des affiches où je me retourne parce que je trouve ça assez étonnant, des grandes banderoles qui parlent d'étudiants en manque d'affection au lieu de affectation. Ça peut être, je m'arrête devant une boutique qui parle de mer et de dessert. À chaque fois, je transforme le mot pour aller dans un thème qui m'intéresse ou qui a un sens particulier pour moi. Et ça peut être assez coquin. Il y a quelques années une publicité radiophonique qui parlait du veau élevé sous la mer. En tant que citadine, je n'avais pas imaginé que les veaux ne puissent pas être élevés sous leur mer. Donc du coup, pour moi, le veau élevé sous la mer, c'était à côté du tunnel sous la Manche. Il y avait des dômes en plastique et ils élevaient les veaux pour leur donner un goût particulier sous la mer. Je trouvais ça un peu étrange, mais je ne m'étais pas interrogée plus que ça. Et c'est des années après que j'ai compris que c'était plutôt exceptionnel que les bébés veaux soient élevés sous leur mère, ce qui est beaucoup plus triste. Donc finalement, ma dyslexie me donne une vision du monde plutôt joyeuse, rêveuse, avec beaucoup d'images. Si je n'étais pas dyslexique, je serais quelqu'un de différente, je penserais différemment, je ressentirais, je vivrais différemment. Et du coup, je ne souhaite pas être autre que dyslexique et autre que ce que je suis. C'est plutôt agréable d'être qui je suis. Voici la fin de ce premier podcast. Donc je vous invite à écouter le second. sur la dyslexie et puis je vais essayer d'en faire sur les thèmes qui me touchent, les thèmes qui me mettent en colère, les thèmes dont j'ai envie de parler. À bientôt!